Merci Anne Fauquemberg et bonsoir à tous. Nous sommes ce soir à Bordeaux, dans les studios de France Bleu Gironde. Sur la route, Julie Gacon, avec Yvon Croisier et Sophie Bobert.
Alors, mettez votre main, votre majeur et votre index, voilà, comme ceci, entre les, voilà, comme ça.
Ah oui, d'accord.
Et là, on va lever le pick-up. Donc, avec votre index, vous allez bloquer déjà le fil, comme ceci. Et là, avec l'autre main, votre autre main, vous libérez le fil en levant le pick-up. Voilà, déjà, c'est cool. Vous avez réussi
très bien.
La moitié du 1.
C'est très cool.
Et après, il va falloir que vous synchronisiez votre mouvement.
Et donc, il faut que je lève la canne vers le ciel ?
Vers le ciel, vous lâchez votre index.
Alors, est-ce que vous avez fait exprès de choisir une zone où il n'y a pas d'arbre derrière ?
Oui, 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 oui.
Merde ! Ouais. Oh non, ça commence trop mal. Surtout que j'ai pas compris ce qui s'était passé, en fait.
Non, non, le preneur de son a failli d'avoir droit à un piercing.
Yvon aime les perches, mais...
Ah ouais.
Alors ?
Alors, je vous montre une dernière fois.
Ouais.
Je bloque avec l'index. Je décide de le jeter là. Je lâche mon index au moment où le sillon passe au-dessus de ma tête. On réessaye ?
On réessaye.
Ah ben, franchement, pour une première fois, c'est nickel. Et déjà, c'est dans l'eau. C'est dans l'eau. Donc, c'est gagné. Voilà.
Moi, de toute façon, je suis une adepte du no-kill. C'est ça, on ne tue pas le poisson.
C'est ça, tout à fait. On ne tue pas le poisson. Mais il faut l'attraper déjà. Ce sera peut-être pour tout à l'heure. Ben voilà, je pense que vous avez tout ce qu'il faut pour faire une bonne pêcheuse.
C'est sans doute ce qui a le moins changé ces dernières années dans la pratique de la pêche en eau douce. Son principe, il faut attraper le poisson. C'est au moins le dénominateur commun de tous les pêcheurs à la ligne du monde. Qu'ils soient assis dans leur fauteuil, canette à la main en attendant que le bouchon s'enfonce, ou aux aguets, les muscles bandés, prêts pour le combat. La pêche ne vaut d'être vécue sans connaître le frisson de l'onde sismique qui remonte le fil, se propage à travers la canne et remonte dans le bras. Du léger choc à la violente secousse, cette seconde même où le poisson mord à l'hameçon, cet instant furtif qui relie l'homme à sa proie. Pour le reste, technique, matériel, motivation, la pêche n'a plus rien à voir avec ce qu'elle a pu être, se faisant à la fois plus sportive, plus écolo et plus miséricordieuse avec ses victimes. C'était au lever du jour dans l'est de la Gironde, à Pessac-sur-Dordogne. Nous avons pris la rue du Port, puis la rue des Bateliers, et nous sommes arrivés sur les quais. La lumière est la même tous les matins, Alexandre Fabrice, sur la Dordogne.
Ça dépend du temps en fait, ça dépend de la météo, voilà, tout simplement. Il y a des jours où le soleil, on ne le voit pas forcément. Après les lumières, vous verrez au fur et à mesure qu'on va descendre, la lumière va changer. Là on est sur du rose orangé, un petit peu plus tôt c'était rouge, c'était magnifique. Et après bon, on va voir le soleil se lever, normalement.
Voilà. Vous nous emmenez où ?
Alors là on va descendre en direction de... en aval, donc on va faire une dérive jusqu'au village de Flaujag. Voilà.
Sur votre petit bateau à moteur.
Tout à fait, voilà.
Quel équipement vous avez prévu ?
Là, en fait, matériel pour pêcher le brochet, essentiellement. Voilà. On va essentiellement cibler le brochet. Poisson prédateur par excellence de notre rivière. Voilà. C'est un poisson qui est magnifique, qui est une robe. J'espère qu'on aura l'occasion d'en voir un, ou deux, ou plus.
Vous êtes impatient ?
Toujours. Quand je suis au bord de l'eau, je suis toujours impatient d'être sur l'eau et d'agir. Voilà.
Vous pensez que les poissons vous attendent ?
Moi, je les attends, eux, je ne sais pas. Voilà. Allez-y. Ça ne bouge pas trop. un petit peu de... Ça change un petit peu des techniques traditionnelles à la rame. On a du matos, comme vous pouvez voir, un petit peu sophistiqué.
Un moteur que vous actionnez avec une télécommande.
Voilà, c'est ça, c'est un moteur électrique qui fonctionne sur une batterie, donc qui pollue pas déjà. Voilà, parce que malgré tout, ça fait partie des contradictions de notre passion, la pêche, c'est qu'on utilise quand même des moteurs thermiques à essence, et même si on fait attention un maximum, on a quand même toujours quelques gouttes d'huile qui tombent. Et voilà, on contribue malgré nous aussi à la dégradation de nos milieux. Ça fait partie des contradictions de notre passion et finalement de notre point de vue de base, quoi. Parce que généralement, enfin, normalement, les pêcheurs, on est censé être amoureux de la nature et censé être là pour la protéger. Mais voilà, on a quand même un impact malgré tout. Et même la pratique de la pêche en elle-même, ce qu'on pratique, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui dans le jargon moderne le no-kill, c'est-à-dire que le poisson, on l'attrape vraiment pour le sport et on le remet à l'eau. Mais c'est pas sans effet négatif, parce que le poisson, on lui fait quand même du mal. Ça fait partie des choses, voilà, qu'on se cache, mais c'est une réalité. Donc c'est vrai que ça, c'est une grosse contradiction. Voilà.
Vous, Alexandre Fabrice, vous avez toujours pratiqué le no-kill, ou est-ce qu'il vous est arrivé de tuer les poissons que vous pêchiez ?
Alors toujours, je n'ai pas toujours pratiqué le no-kill, parce que c'est le no-kill, c'est réellement pratiqué depuis, on va dire, une vingtaine d'années chez nous en France. Avant ça, la pêche, c'était un loisir qui était fait pour se détendre, mais aussi pour ramener le poisson. Ça faisait partie des traditions, on ramenait le poisson à la maison pour le plaisir de la table, tout simplement.
On va laisser notre bateau s'approcher tout doucement des zones à brochets que l'on imagine tapis dans leur antre, prédateurs qu'ils sont eux aussi. Bonsoir Jean-Luc Chapin.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes photographe de la vie sauvage, on peut le dire comme ça.
On peut le dire comme ça, oui.
Vous êtes l'auteur avec Éric Audinet d'un livre superbe, Pêcheurs au pluriel, aux éditions Confluence. Vous signez les photos de ces pêcheurs que vous avez suivis dans leur trac, aux brochets, aux cendres, aux silures, pêcheurs de carnassiers. C'est une espèce particulière.
Oui, c'est une pêche particulière qui entre totalement dans cette modernité que décrit Alex. Personnellement, je pêche le brochet, enfin les carnassiers depuis très longtemps, et il est très lucide par rapport à l'évolution, j'allais dire, des mœurs halieutiques. Et le no-kill est entré très fort pour une transformation, disons, vers un sport. Je pense qu'on peut, voilà, c'est la meilleure définition de la pêche aujourd'hui. Ceci dit, il n'y a pas que des pêcheurs en no-kill. Je connais beaucoup de pêcheurs qui pêchent la friture, qui gardent un brochet. Personnellement, je garde de temps à autre un brochet ou un cendre pour régaler mes amis, en quelque sorte.
Mais on parle donc de no-kill, on parle de catch and release. Il y a beaucoup d'anglicisme aujourd'hui.
Alors,
dans la pêche.
Alors, il y a eu une tentative en français, mais c'est le sans-tuer. Alors, j'ai lu et j'ai entendu le sans-tuer, mais bon, c'est la première fois que je l'ai entendu, j'ai cru que c'était un mot japonais. Donc, il y a quelque chose de difficile avec le sans-tuer. No-kill, voilà, anglicisme. Bon, voilà, il faut accepter quelques anglicismes, même si c'est toujours bon de trouver un nom. Il faut demander aux Canadiens, ils ont peut-être... quelque chose d'intéressant.
Mais alors, ça vient d'où justement cette mode-là, ou cette tendance, ou cette éthique ?
Alors, moi, je pense que c'est quelque chose, c'est une sorte d'économie, malgré tout. Il y a aussi bon le rapport à l'animal qui a évolué. Tuer un animal est devenu quelque chose d'assez difficile. On est même arrivé aujourd'hui à avoir quelques scrupules autour des arbres, des choses comme ça. Donc c'est pour vous dire que la chose avance d'une certaine manière. Je pense qu'il y a ça, et c'est greffé là-dessus, ce qui a donné une sorte de vigueur à la pêche, en quelque sorte, une jeunesse à la pêche, qui effectivement l'a transformée en sport. Même si beaucoup de gens démarrent jeunes à la pêche avec, disons, une pratique traditionnelle et... Voilà.
Alors vous dites quand vous rapportez, quand il vous arrive de rapporter un poisson chez vous, c'est pour en régaler vos amis. Est-ce que c'est aussi pour raconter une histoire?
Oui, bien sûr.
C'est une preuve.
Alors ça, c'est un sujet très intéressant, ce que ça a à voir avec la photographie. C'est-à-dire que j'ai un débat avec Éric Audinet, justement, qui...
Le co-auteur du livre.
Le co-auteur du livre et ami, qui dit... que le fait de rapporter une pièce engendre un récit, ce qui ce en quoi il a totalement raison.
Il dit je les ramène ces poissons pour raconter une histoire, dire la couleur de la rivière et
tout
du ciel,
fait.
Les 15 lancers avant que le brochet ne vienne au leurre et la bagarre dans les branchages.
Tout à fait, il a raison et tort aussi, puisque la pratique de la photographie dans le no-kill est absolument indispensable, puisque chaque poisson avant d'être lâché est photographié. Le cas d'Alex est très fort, puisque j'ai travaillé un an avec lui pour ce livre. Et dans la chronologie, il y avait la prise où là je photographiais. Ensuite, je faisais une photographie pour lui avec son appareil photographique. Images qui partent très rapidement sur Internet et autres, enfin sur le circuit. Et je prenais ensuite le temps de faire ma photographie, tout en sachant qu'il fallait garder le poisson vivant. C'est pour vous décrire la chose. Mais la photographie, bon, à mon avis, permet un récit, justement.
Mais pas le contact physique, pas la preuve physique.
Voilà, ça après...
C'est une question de rapport à la nature. Vous avez commencé à l'évoquer, mais c'est aussi le fait de relâcher le poisson, un moyen de gérer une ressource halieutique.
Tout à fait. Il y a un exemple assez frappant, comme vous le savez, je m'intéresse à la littérature. Il y a un exemple très frappant d'un certain Henri Bresson qui a écrit un livre qui s'appelle Le sorcier de Vesoul. Alors c'est ce qu'on appelle les romans halieutiques, hein, c'est pas des choses magnifiquement écrites et autres, c'est pas MacLean ou Harrison. Mais cette idée-là est intéressante puisqu'il a été interdit de pratiques de pêche sur des sociétés de pêche parce qu'il était capable de dévaster une rivière en quelque sorte.
Je croyais pourtant que chez les anciens, avant même que cette pratique du no-kill n'arrive,
j'en avais fait un commerce.
C'était le « tu ne tues que ce que tu consommes ».
Voilà, mais
c'était
lui vendait son poisson, il prenait des grosses truites, c'était dans la Massif Central, je crois. Et donc un individu très grand pêcheur, lui il avait, dit-il, une vue exceptionnelle, puisqu'il annonçait 15 sur 10, enfin bon. Et il voyait les poissons où personne ne les voyait, et en plus de ça, il les pêchait magnifiquement, et il les pêchait à la mouche en plus. Donc c'était vraiment c'est un cas, mais il a été interdit par beaucoup de sociétés de pêche. Il y a cette capacité de vider en quelque sorte une rivière.
C'était une époque aussi où les poissons n'étaient peut-être pas aussi chargés qu'aujourd'hui en mercure, en PCB, en...
Oui,
même
bien
les
sûr. Voilà, il y a eu une période assez difficile, je pense, dans les années, dans les Trente Glorieuses notamment, où les rivières se sont trouvées polluées par un certain nombre d'industries, où on n'avait pas vraiment une attention sur la qualité de l'eau et autres. Alors, je dois vous dire qu'aujourd'hui, ça s'est quand même nettement amélioré. Beaucoup d'industries, comme des papeteries, ont disparu. C'était de grandes pollueuses de rivières. Et il y a une attention très particulière sur la qualité de l'eau. Moi, je vois la Loire, que je connais bien, qui renaît de ses cendres pour la pêche, mais aussi une activité gastronomique autour de la pêche.
Jean-Luc Chapin, sur quelle rivière et sous quels cieux, vous qui aimez tant la lumière, est-ce que vous aimez pêcher?
Ah, alors j'aurais tendance à dire que j'aime pêcher partout. Alors c'est vrai qu'ici je pêche dans la Dordogne, mais quand je retourne dans ma Touraine natale, je pêche dans le Loir, qui est un affluent de la Loire passant par la Maine. J'ai pêché la Loire. Je pêche des petites rivières à truites dans les Pyrénées, notamment avec Éric. Voilà. En fait, je me retrouvais même avec un bout à pêcher de Veyron me satisfait pleinement. J'irais même plus loin. Je peux me satisfaire de regarder pêcher. Regarder pêcher me satisfait.
Et quand vous regardez pêcher ou quand vous pêchez vous-même, quel type d'appât a votre préférence? Parce que là, on est dans un débat technique, mais en réalité, qui a toute son importance, asticot, mouche, leurre.
Non. Alors, bon, je pêche un peu à la mouche, mais j'aime beaucoup pêcher ce qu'on appelle au leurre, le carnassier. Donc, j'ai une passion pour le brochet en particulier, qui fait travailler sur diverses leurres, que ce soit des leurres de surface ou des poissons nageurs. Et c'est tout un art, entre guillemets, de maniement. Il faut être quelque part. Norman MacLean a tout un chapitre sur le sujet. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut être le poisson. J'aime beaucoup l'expression l'œil est au fond de l'eau, c'est-à-dire qu'on est sans cesse en train de d'émettre des hypothèses. C'est-à-dire qu'en fait le dessous de l'eau, sous le miroir, on est toujours dans une fiction. Et quand le bras reçoit le choc, évidemment, c'est une sorte de, à la fois de confirmation. C'est un grand moment, mais l'attente, la pratique, la recherche, la quête, en quelque sorte, est pleine.
Avec donc un leurre qui n'est ni un asticot, non, ni du poisson vif, c'est ce qu'on appelait à une époque la cuillère.
On va attaquer la pêche. Allez, c'est parti. Donc pour chercher notre carnassier favori, on va utiliser des leurres en fait. Ça peut
donc
paraître
un poisson en plastique vert pailleté.
Voilà, voilà, voilà. Alors là, après les couleurs, les formes, aujourd'hui, il y en a des dizaines et des dizaines. Ça part un peu dans le délire. On se demande même pourquoi les poissons sautent là-dessus. c'est vraiment des réflexes. Enfin, là, notamment pour le brochet qu'on va rechercher aujourd'hui, c'est s'il attaque ce type de leurre, c'est vraiment par agressivité. Ça imite une proie. Et ça émet des vibrations, des sons qui font que le carnassier en maraude ou en chasse va venir agresser, attaquer ce bout de plastique. Voilà.
L'agresser de manière féroce parfois, le brochet.
Plutôt,
est
oui.
Un...
Le brochet, c'est vraiment le prédateur basique et primaire. C'est pas un poisson qui est forcément très futé, on va dire. C'est vraiment... C'est un petit peu le lion, quoi. C'est quand il est en mode chasse, c'est vraiment un poisson qui est violent, quoi. Allez, on va lancer pour la première fois de la journée.
Vous avez un lancer qui ne va pas vers l'arrière, mais que vous devez comme ça diriger le plus justement possible devant vous. Et puis... À chaque fois, vous ramenez la canne à pêche par secousse, comme ça ?
Ouais, voilà. On ramène, en fait, en fonction du leurre qu'on veut utiliser, on ramène de différentes façons. Là, en l'occurrence, avec ce leurre, je vais le ramener tout doucement, par traction assez lente, pour laisser le temps au brochet de venir le saisir. Donc là, en fait, il faut bien regarder le... On a de la chance, l'eau est très claire, et on voit bien la couleur très vive du leurre. Donc, en fait, il faut avoir toujours le regard sur le leurre dans l'eau. C'est à ce moment-là qu'on peut voir arriver le brochet. C'est toujours assez impressionnant. Ça met toujours un petit coup d'adrénaline. C'est ce qu'on recherche. Parce qu'il peut prendre son temps, venir observer sa proie et l'attaquer vraiment au dernier moment. Tout comme il peut être extrêmement rapide et on ne peut voir juste qu'un éclair très furtif et prendre une décharge dans la canne.
Une châtaigne.
Une châtaigne, voilà, oui, c'est ça.
Racontez-nous la sensation que ça fait au moment où vous sentez que ça mord.
Alors, pour imaginer un petit peu la chose sur un gros poisson, en fait, c'est comme si vous teniez une corde, totalement détendue dans les mains, et il y a quelqu'un qui part à la course devant vous sans vous avertir et qui tire dessus. Voilà, ça peut donner cette impression. En fait, la pêche au leurre, enfin, comme toutes les pêches, c'est plusieurs phases, quoi. Finalement, il y a la préparation, donc la préparation qui peut se faire la veille, par exemple, à la maison, où on va préparer le matos, on va se faire quelques films dans la tête, on se prépare gentiment. Et après, il y a l'arrivée sur l'eau, le plaisir commence à monter. Et ensuite, ben, il y a cette traque qui peut être très longue des fois. Ça peut durer très longtemps sans rien. Il y a le moment de la touche. Là, c'est vraiment Voilà, la bonne montée d'adrénaline. Ensuite, il y a le combat. Hein, c'est plus le poisson est gros, généralement, plus le combat est violent. Et après, il y a la finalité, saisir la prise, soit avec la main ou avec l'épuisette.
Finalement, c'est un cadeau que vous faites aux pêcheurs qui vous suivront, en fait, de relâcher le poisson.
C'est un petit peu ça, oui, c'est un petit peu ça.
Et peut-être à vous, en fait. Est-ce que parfois vous leur dites, ben, mon coco, à demain ou à l'année prochaine?
C'est déjà arrivé qu'on reprenne des poissons, qu'on reconnaisse des poissons qu'on a déjà pris une fois ou deux. C'est déjà arrivé. Hop, là j'avais un poisson branche. J'ai le souvenir d'un brochet que j'ai pris deux fois, qui était borgne en fait. Il avait qu'un œil, il avait le deuxième œil atrophié. Donc ce poisson-là, on pouvait pas se tromper, c'était le même.
Mais alors, vous finissez par vous y attacher quand vous les croisez plusieurs fois?
Non, non, on n'en est pas là quand même.
Le brochet de compagnie.
Voilà, c'est ça. Voilà. Et après, il y a un dernier acte qui fait partie aujourd'hui, voilà, de ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au no-kill, c'est que du fait qu'on remette le poisson à l'eau, finalement, ces poissons aujourd'hui, avec tous les moyens qu'on a, les téléphones, les appareils photo numériques, les caméras style GoPro, tout ça, on les capte sur ces appareils-là pour en garder des souvenirs pour soi, ou alors aujourd'hui sur les réseaux sociaux par exemple. Tout le monde se fait plaisir, tout le monde se compare, tout le monde, c'est un petit peu le déballage des égos, on va dire, de celui qui... Ben finalement, c'est celui qui a la plus grosse, quoi. C'est un petit peu ça, c'est un petit peu ça. Et là, bon, ça gâche un peu le tout le reste, quoi.
Alexandre Fabrice, j'ai entendu un plouf, oui. À bâbord.
Là, c'est un poisson qui vient de sauter. Un poisson qui se réveille sans doute et qui est venu nous saluer en surface.
Alors, on vous voit naviguer d'une rive à l'autre de cette rivière avec ses rives arborées. Vous êtes connu pour être l'un des très bons pêcheurs du coin. Quelle est la part de connaissance de la rivière, connaissance intime dans cette réussite?
Il se trouve que la rivière Dordogne, c'est une rivière que j'apprécie vraiment énormément. J'ai un petit peu l'impression que cette rivière me coule dans les veines, quoi. Je ne sais pas véritablement comment expliquer ça, mais j'ai un besoin vraiment très très fort de la voir, d'être dessus, d'être en contact avec. Pas forcément en acte de pêche, mais... J'ai vraiment ce besoin de proximité avec cette rivière. Et d'ailleurs, j'en parle pas comme on pourrait parler d'une rivière, j'en parle très souvent comme d'une personne. Ben, soit on va la trouver malade, on va la trouver belle, on va la trouver pas agréable, on va la trouver parfois douce, parfois un petit peu violente. Voilà. J'en parle comme d'une personne proche. Hop, je vais tourner.
Quel est votre premier souvenir lié à la Dordogne?
Les parties de pêche avec mon père quand j'étais petit, et quand on est gosse, quoi, c'est un petit peu l'aventure, quoi. C'est la découverte de plein de choses.
La découverte que vous pouvez être plus fort que le poisson et que le poisson peut être plus fort que vous.
Oui, c'est un petit peu ça, ouais. C'est un petit peu ça. Le charme et l'attrait de la pêche, c'est qu'on peut pas toujours gagner, quoi. Sinon ce serait pas drôle.
Après s'être laissé dériver quelques temps, on fait du surplace. J'imagine que c'est un calcul.
Oui, c'est exactement ça. En fait, on est sur une zone, sur un poste, en fait, où il y a beaucoup d'obstacles sur le fond. Et là, je sais, pour l'avoir vu il y a un peu plus d'une semaine, qu'il y a un brochet qui est de taille fort correcte, qui rôde dans le coin. Donc j'insiste un petit peu plus qu'ailleurs. Normalement, le poisson doit être là. Après, est-ce qu'il voudra agresser notre leurre ce matin? Ça n'a pas l'air d'être le cas pour l'instant. Hop là.
C'est lui qui nous nargue derrière ou...
Ouais, c'est ça, ouais. Il vient de nous faire un bras d'honneur, là. Notre brochet casanier ne veut pas de notre leurre ce matin, donc on va changer de secteur.
Quand on est comme là, au milieu de la rivière, Alexandre Fabrice, on voit le monde autrement.
En fait, je pense que je ne le vois pas, le monde, quand je suis sur la rivière. Je suis justement dans mon monde à moi et le reste, c'est un peu, c'est peut-être, c'est un échappatoire aussi, hein, la pêche. Ça permet de laisser tout le reste dans l'autre monde, voilà, et de s'isoler sur l'eau et de penser uniquement qu'à la pêche, quoi. C'est tout.
Deux cygnes qui s'envolent ou qui tentent devant nous.
Je crois que c'est un cygne.
Là, vous poussez le no-kill jusqu'au bout, là. Zéro poisson depuis ce matin.
Pour l'instant, on fait c'est no-catch, no-kill pour l'instant, quoi.
Julie Gacon, France Culture, sur la route.
Sur la route des pêcheurs d'aujourd'hui, nous sommes dans les studios de France Bleu Gironde avec notre invité Jean-Luc Chapin, photographe et pêcheur. Mais alors, on n'a vraiment pas de chance, Jean-Luc Chapin. On s'était rencontré l'année dernière à peu près à la même époque pour parler des cueilleurs de cèpes. Mmh. Vous avez également écrit et coécrit un livre sur la cueillette des cèpes ou sur les cueilleurs de cèpes. On était avec le meilleur cueilleur de cèpes du département de la Lozère. On avait trouvé 3 cèpes en 3 heures et là, on n'a pas trouvé de poisson.
Oui, j'étais d'ailleurs très étonné puisque, bon, moi, j'ai rarement fait des bredouilles avec Alex. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'il est d'une... Je suis très, très touché parce qu'il est d'une grande lucidité, d'une part. Et il parle merveilleusement de la pêche et de la rivière en particulier. C'est ça qui m'a vraiment intéressé. Pour avoir souvent pêché avec lui, effectivement, il entre dans une sorte de... Ce que je comprends très bien, parce que c'est quasiment le propre de beaucoup de pêcheurs, il entre dans une forme de transe. C'est-à-dire qu'en fait, là, il faut bien le savoir quand on est avec lui, et il faut arriver, alors dans le cas du travail ou dans le cas d'une discussion, arriver à trouver les interstices, les moments. Mais quelle merveille!
Mais alors, après une transe de cette sorte, c'est terrible de rentrer bredouille, ou pas?
Oui, mais enfin bon, voilà, après, c'est dans l'oubli, dans le manque qu'on trouve, le désir est là, en permanence. Bien sûr.
C'est comme pour les cèpes, peut-être, d'ailleurs, il faut une bonne conjugaison de tous les éléments?
Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, le principe de la cueillette ou de la pêche, hein, j'imagine de la chasse, mais de la pêche, c'est effectivement une sorte de... On suppute beaucoup, on organise beaucoup, on pense que... Je vous parlais d'hypothèses tout à l'heure, on est vraiment là-dedans, et c'est ça qui est une sorte de moteur. Et les conditions, quand elles sont réunies, permettent effectivement de faire des journées exceptionnelles. Mais effectivement, il faut un certain nombre de conditions. Par exemple, une des grandes conditions pour que le carnassier bouge un peu, c'est que la rivière, qu'il se passe quelque chose sur la rivière, c'est-à-dire ou une crue ou une mini-crue, un changement de niveau d'eau, changement de température. Alors parfois le vent, parfois il faut pas le vent, c'est assez particulier. Et quand la conjonction se fait, là on peut, moi il m'est arrivé avec Alex de prendre jusqu'à 10 brochets en, voilà, des poissons de 80 à 1 mètre, voire plus d'un mètre dans la même journée, hein. Quand je fais la couverture de pêcheur, par exemple, on était sur une journée de ce genre. J'ai réussi donc à lui extirper un brochet pour pouvoir travailler cette couverture, cette nature morte. Alors, vie immobile, disent les Anglais, ce qui me convient nettement mieux. Et ce jour-là, c'était absolument fabuleux. On avait l'impression qu'il prenait tous les brochets, derrière tous les obstacles, derrière tous les troncs immergés. Voilà, alors moi j'ai connu ce genre de journée avec lui. Et je vous dis, rarement des bredouilles.
Bon, c'est pour ça, il les a tous pris en fait.
Il est relâché.
Ceci dit, c'était mercredi, c'était les premiers froids et apparemment ça le brochet n'aime pas. Bon, alors vous, Jean-Luc Chapin, vos premiers souvenirs de pêche, petit tour en jour que vous étiez, vous nous avez dit tout à l'heure.
Près de Tours, oui.
Ouais, vous y alliez tous les jours avec vos camarades de classe, alors, à quel âge?
9 ans, 10 ans, mes parents m'ont laissé aller à la pêche une fois que j'ai su nager. J'ai appris à nager dans la rivière en plus, donc non pas en piscine et autres. Dès que j'ai su nager, je suis allé à la pêche et après c'est devenu extrêmement intense, en particulier pendant les vacances, puisque moi il y avait l'école le reste de l'année. Et là c'était tous les jours dans une sorte de quelque chose de forcené, j'en rêvais la nuit. Enfin bon, c'était vraiment très... Et on était un groupe de garçons et pris par ce phénomène. Alors en plus, voilà, on avait une sorte d'aura dans le village. C'était quasiment du Genevois, quoi. Quand je lis la boîte à pêche de Genevois, j'ai l'impression de me voir enfant partir à la pêche.
Il y a un peu de ce rapport à l'enfance, à la famille dans chaque pêcheur.
Souvent, oui, souvent, puisque mais Alexandre le dit d'ailleurs, c'est son père qui l'a emmené à la pêche, et bon, ça c'est vrai qu'il y a quelque chose de très fort dans ce rapport au père, souvent, hein. Ma mère est certainement plus pêcheuse que mon père, mais elle n'a jamais été à la pêche, alors que voilà, elle avait une sorte de passion un peu retenue autour de ça. Alors, à nouveau, je vous ramène à la littérature, excusez-moi, mais dans les romans américains, vous avez très souvent ce phénomène de générationnel. C'est-à-dire, en fait, le père emmène les enfants. Et en plus, notamment dans une collection particulière de Gallmeister, les Américains ont, à travers la pêche et la chasse, mais la pêche, l'impression qu'ils vont pouvoir résoudre tous les problèmes générationnels en accompagnant leur gosse dans la nature. La nature est pourvoyeuse de tout, y compris, peut résoudre tous les problèmes. Bon, ce qui n'est pas le cas, évidemment, quand le roman est bon, où le drame s'insinue.
Oh, Tom Sawyer, il n'avait pas beaucoup de problèmes.
Non, non, mais je pense à un livre en particulier qui a été un best-seller il y a, je crois, 3-4 ans, Sunback Island.
Alors, vous pensez à quoi quand vous descendez vers la rivière? C'est peut-être là que commence la première émotion du pêcheur.
Oui,
si on
veut
faire une chronologie des émotions.
Le chemin, oui, bien sûr. Je pense que la rivière ne nous quitte pas vraiment quand je circule pour mon travail et autres. C'est vrai que je jette un œil sur les rivières, sur les marais aussi, sur les lacs. Mais la rivière, l'entité rivière est quelque chose qui me poursuit. Évidemment, le chemin, quand je vais rejoindre Alex ou quand moi-même je vais à la pêche, effectivement, je suis dans une sorte de projection.
Donc il y a cette projection, il y a ensuite, une fois sur l'eau, Alexandre nous le disait, ce moment où le poisson est encore sous l'eau mais visible, et la montée d'adrénaline, et puis ce choc dans le bras, bras qui annonce que le poisson...
Ça électrifie le bras, effectivement, parce que le poisson, c'est vrai qu'au leurre, on voit le poisson de temps à autre, mais on ne le voit pas toujours, donc on est parfois surpris, mais c'est une décharge qui arrive pendant une pensée, c'est-à-dire qu'en fait, on est toujours prêt... Et toujours prêt à recevoir cette décharge, et en fait elle nous surprend toujours. Et effectivement, on bascule tout d'un coup dans un autre monde, qui est effectivement un monde plus violent, où il y a un combat effectivement à mener.
Mais
un
combat qui peut être acharné, parce que les silures notamment, voilà. Ça peut atteindre plus de 2 mètres, et vous en avez pêché des silures de plus de 2 mètres.
Moi j'ai pêché des silures, je n'ai pas pêché de plus de 2 mètres, mais je suis allé à la pêche, notamment avec Alexandre, qui a très récemment pris un silure de 2,50 mètres.
Et là, c'était un vrai combat, là.
Ah oui,
on était dans l'arène.
On fait entre 500 et pas loin d'un kilomètre de rivière traînée par le silure. Poisson quasiment insortable si vous pêchez du bord. Donc le bateau participe au combat et ça dure une demi-heure, trois quarts d'heure. Et le pêcheur est souvent éreinté, hein, c'est-à-dire que il est très très touché, fatigué.
Donc le brochet est très
alors
fort.
Alors le brochet, c'est différent, oui.
Ouais, pourquoi? Parce que le brochet, il peut se faire immobile
déjà.
Comme ça. C'est moins gros, mais alors c'est très surprenant. Au départ, alors, il est immobile, il ne bouge pas.
Exactement, oui. C'est la technique de chasse du brochet, est une technique à l'affût. Et en fait, il met toute son énergie dans le mètre 50, 2 mètres qui lui fait rejoindre la proie. Il abandonne d'ailleurs tout de suite. Hein. D'autres poissons poursuivent, comme la perche par exemple. On voit très fréquemment sur l'eau une perche qui poursuit un poisson, c'est assez spectaculaire, c'est assez fréquent. Le brochet, lui, met toute son énergie dans l'attaque et il rate rarement sa proie.
Et il laisse tomber parce que c'est un poisson de territoire. C'est un poisson qui défend
tout
son
à fait,
territoire.
Tout à fait.
Et alors, quelle que soit la violence du combat, jamais le fil de la canne à pêche ne rompt. Voilà, la canne à pêche, c'est aussi une marque de distinction du pêcheur nouvelle génération, comme tout le reste de l'équipement.
Alors votre spot est libre, Damien ?
Ouais, tout à fait. Là, on a un spot qui est open quoi, pour la pêche.
Bon, vous avez peut-être le sens de la provocation, parce qu'il m'a semblé voir là-bas un panneau interdit de pêcher.
Oui. Ah, ça ne me dérange pas du tout. Généralement, c'est où il y a le panneau interdiction de pêcher qu'il y a le poisson. Donc je reprends mes droits.
Damien, vous êtes l'un de ces pratiquants de la nouvelle pêche, comme on dit.
Oui.
Qui peut aller loin dans les interstices, puisque vous pratiquez le street fishing.
C'est ça.
Vous allez vraiment... C'est de la pêche urbaine, en fait.
C'est de la pêche urbaine, ouais. Tout simplement où il y a du poisson en ville. Et les gens croient... Du fait que c'est en ville, que les eaux sont polluées, qu'il n'y a, il y a plus de poisson, où les gens se posent tout simplement pas la question, est-ce qu'il y a du poisson? Et au final, on peut très bien s'amuser en ville en pratiquant la pêche, quoi. Moi, j'ai commencé la pêche comme ça. Et ça a été pendant des années mon aire de jeu, où j'ai pu comprendre le comportement des poissons et me servir des péniches, comme je vous ai dit, des sorties d'égout, tout ce qui peut accrocher du poisson. C'est-à-dire qu'une sortie d'égout, on va dire, ouais, c'est une zone polluée. Mais on s'en fiche parce qu'on relâche le poisson. Mais la sortie d'égout va faire que l'eau sera plus chaude. Donc va attirer les petits poissons. Et forcément, qui dit petit poisson, dit carnassier.
Alors vous nous avez emmené à Libourne.
Oui, zone industrielle. Donc c'est 100% urbain dans le fait que ça n'a pas du tout l'écosystème d'une rivière ou d'un lac. C'est un fond uni qui fait 6 mètres de profondeur. Donc chaque chose a son intérêt. Comment dire, ne serait-ce qu'un caddie au fond de l'eau. Un caddie au fond de l'eau fera un magnifique spot. Tout simplement, un caddie, une mobilette, une voiture. Ça fera comme un récif et ça va attirer le poisson parce que ça fait une zone de protection pour les petits poissons. Et les carnassiers forcément rôdent autour. Voilà. Puis là, on va essayer d'en dénicher quelques-uns. Donc ça, oui, c'est une traque. C'est-à-dire que si le spot ne m'intéresse pas, ben, je passe à un autre spot, ainsi de suite. Voilà.
C'est un sport.
C'est un sport. Oui, non, mais voilà, c'est vraiment une image différente de la pêche comme on peut la voir avec le papy. Là, oui, ça se rapproche vraiment plus d'un sport.
Avec vos lunettes de soleil, avec votre bouc et votre casquette, vous êtes un peu le Ibrahimovic de la pêche.
Ouais, on peut voir ça comme ça, ouais. Ça me plaît, ouais. Ça me plaît très bien.
Et avec votre, j'allais dire, votre 1m98, donc vous faites plus de 2 mètres.
2m05. 2m05. Je suis un grand pêcheur. Un très grand pêcheur.
Précision, vos bottes en caoutchouc, là, c'est du combien ?
Du 50 ou 51, je ne sais plus très bien.
Bon, votre vrai équipement, Damien Laporte, c'est votre canne à pêche.
C'est ça.
Alors, avant de venir ici, est-ce que vous avez dû faire un choix parmi plusieurs cannes à pêche que vous avez, plusieurs moulinets que vous avez, plusieurs leurres, puisque vous pêchez au leurre ?
Oui, oui. Alors, en fait, je me fais ma pêche en... comme un schéma mental en fait de ce que je vais dans quel poste je vais évoluer, les conditions météo, le poisson que je vais rechercher, et tout ça fait que je vais cibler un type de leurre, un type de canne pour un type de poisson précis.
Vous avez combien chez vous de cannes à pêche?
Je les ai pas comptées, je crois que ça doit être proche d'une vingtaine de cannes à pêche.
Ouais, c'est un sacré investissement quand même, parce que ça coûte cher une canne à pêche.
Oui, 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 faut compter sur un départ de 70 euros, après ça peut monter au-delà de 1000 euros. Pareil pour un moulinet, qui peut monter à 1000-2000 euros.
Mais c'est indispensable d'avoir tout ça ?
Non, en fait c'est par choix, après du fait que c'est une passion, comme toute passion elle est dévorante. On aime se faire plaisir avec du beau matériel. C'est aussi ça la pêche moderne, c'est de faire du poisson, mais se faire plaisir sur du matériel.
Mais au fait on cherche quoi comme poisson là ?
Là ? Ah ça y est, et mince ! Là, je sais pas si vous l'avez.
Non.
Deux petites perches. Regardez. Hop. Alors là, elles fonctionnent sur des attaques réflexes. Je suis assez content. Les poissons réagissent au leurre qu'on leur propose. Donc déjà, c'est pas mal. Et voilà. Vous voyez ? C'est-à-dire que c'est pas très grand, mais ça reste une perche avec ses magnifiques nageoires oranges.
Et là, vous ressentez quoi quand vous la touchez ?
Mais déjà, c'est le principe de réussir à avoir compris son fonctionnement et de l'avoir attrapée et de pouvoir la contempler. Et je la remercie, je la remets le plus vite possible à l'eau pour qu'elle reparte avec les meilleures conditions possibles. Et voilà. Pour après pouvoir le pêcher quelques années plus tard en espérant qu'elle soit un peu plus grosse. Et que d'autres pêcheurs puissent prendre du plaisir comme j'en ai pris. tout a fonctionné comme je voulais. C'est-à-dire ma réflexion, le choix du spot et le poisson. Allez, un autre petit poisson.
Mais c'est le même.
Alors, on pourrait croire.
Elle a sauté.
Elle a sauté. Elle veut repartir à l'eau. Alors les perches, c'est très grégaire. Et donc généralement quand on en touche une, on a de fortes chances sur le même secteur d'en refaire. C'est une perche, généralement on n'est jamais seul. Plus l'individu est petit, plus le banc sera nombreux.
Ah, vous dites l'individu.
Oui. C'est un partenaire de jeu. C'est, j'aime le dire quand les gens me disent mais tu manges pas ton poisson, mais un cavalier ne mange pas son cheval, ou un footballeur ne mange pas son ballon de foot. Donc moi j'ai mon partenaire de jeu, je lui fais un petit bisou. Je la remercie de toute l'émotion qu'elle m'a donnée. Et je la relâche gentiment. Voilà.
Vous faites des bisous à tous les poissons ?
Ouais. Ouais. C'est. Je suis pas le seul. Ça va, je suis pas le seul à faire ça. Donc ça me rassure un petit peu.
Bon, c'est bien joli les petites perches.
Bon, on va essayer d'attraper plus gros. Voilà. Alors, vu qu'on est dans le sud-ouest. On est l'une des rares régions à avoir un cheptel de black bass. C'est un poisson qui vient du nord des États-Unis. Et c'est vraiment un poisson sportif. Ben à la base, la pêche au leurre a été plus ou moins faite pour la pêche au black bass.
Donc tous ces leurres que vous avez là, oui, dans votre boîte sont plutôt pour des gros carnassiers, quoi. Les leurres sont gros.
Voilà. Sauf que là, on va essayer de jouer sur l'agressivité du poisson. Le leurre fait énormément de bruit, donc ses billes lui donnent l'information où se situe leur proie, mais là, un leurre. Et c'est comme ça qu'on le fait réagir. Alors au début, ça peut choquer les gens, parce que la pêche, à la base, on ne doit pas faire de bruit. Mais là, au contraire, c'est ce qu'on recherche, faire du bruit, un maximum de bruit.
En attendant que le black bass ne morde, est-ce que vous pouvez nous dire, Damien, quelle place ça prend dans votre vie, tout ça, la pêche ?
La place que ça prend dans ma vie, ça, si on peut parler de pourcentage, ça 80%. Ça prend 80% de mes pensées, 80% de mon temps.
Vous faites quoi alors dans la vie, quand vous pêchez pas ?
Je suis tailleur de pierre. Mais par raison médicale, actuellement je suis en arrêt, donc je profite en pêchant. Ça me permet de sortir, de remonter un petit peu le moral quand il est au plus bas. Puis voilà, ça me fait du bien, quoi.
Est-ce que ça a toujours été une passion ?
Oui. Oui. J'ai pas de souvenir où je pêchais pas, en fait. Depuis l'âge de mes 4 ans à maintenant, j'en ai 35, j'ai pas de souvenir où je pêchais pas. Et je pourrais même pas l'expliquer, cet engouement, je sais pas, j'ai besoin de ça. C'est une émotion que je recherche continuellement. J'insiste vraiment sur ce mot-là parce que c'est un facteur important dans la vie de chacun, l'émotion. Et moi, mon émotion, c'est la pêche. Voilà. Un petit poisson, un gros poisson, l'émotion est différente, mais le plaisir reste le même. Un petit poisson crée du plaisir sur une journée, quoi. C'est-à-dire que le matin, je suis un petit peu déprimé ou j'ai mal par rapport à ma maladie, un petit poisson me remontera le moral. Voilà. D'où ce fameux bisou.
Bon. Alors Damien, maintenant que vous nous avez montré à Yvon et à moi vos spots, ouais, comme vous dites, de pêche, est-ce que vous allez nous enfermer à double tour dans le coffre de votre voiture et
non,
avec du scotch double face sur le...
Non, parce que la pêche moderne au leurre, ça se rapproche énormément du surf, c'est-à-dire que c'est une émotion qu'on aime partager avec les gens qu'on apprécie. Voilà, donc non, il n'y a pas de souci, je ne vous enfermerai pas à double tour. C'est avec grand plaisir si vous voulez revenir sur ces spots et prendre du plaisir tout seul ou à plusieurs.
Ah,
Alors là, Jean-Luc Chapin, on est vraiment dans la pêche sport, le plaisir de la pêche qui s'apparente, comme l'a dit Damien, à celui du surf.
Oui, alors on est dans la pêche sport, mais je suis presque ému, parce qu'effectivement, il va très très loin dans le phénomène de la pêche. Allez, et je pense qu'il y a, je veux dire, c'est pas forcément une exception. Il y a un côté poétique qui émerge, une grande douceur, je le connais, mais il ne m'a jamais parlé aussi profondément. Donc je vous félicite d'avoir réussi à arracher ses aveux, mais parce que je pense qu'il est fait avec bonheur, mais vraiment il y a un côté poétique. Et le fait qu'il n'explique pas complètement ce phénomène, cet amour de la pêche, laisse une sorte de part de mystère absolument incroyable. Et voilà, là se niche effectivement, visiblement, beaucoup de choses.
C'est un monde à soi, en fait. C'est un monde à part.
C'est un monde en soi, oui, tout à fait, tout à fait. On peut naître, vivre, mourir autour de la pêche, mais comme c'est le cas, j'ai travaillé sur le rugby, et le rugby est exactement la même chose. Enfin bon, je veux dire, c'est un monde en soi, oui.
Qui
suffit à soi-même.
Et notamment ce qu'on appelle le street fishing, vous en avez photographié,
oui, c'est de la pêche.
Des pêcheurs,
oui,
en,
oui,
ville.
Oui, ça m'est arrivé. Mais quand je vais à Paris, je vais faire un tour, je crois que, comment s'appelle cette, c'est pas l'île de la Cité, mais il y a d'ailleurs une photographie très très célèbre qui s'appelle Le Petit Prince des années 50, hein, d'un garçon qui pêche au bout de l'île de, voilà, j'ai semé le nom de cette île.
Une île, en tout cas.
L'île Saint-Louis, je crois.
L'île Saint-Louis,
voilà,
pardon.
Voilà.
Avec les glaces Bertillon, bien,
voilà,
sûr.
Voilà, exactement.
Jean-Luc Chapin, vous pensez qu'il peut rester quelque part des monstres cachés? Le plus gros des poissons reste à découvrir. Vous y croyez, ça? Des,
oui,
endroits où,
oui,
on n'a,
oui,
encore,
oui,
jamais,
oui,
pêché.
Oui, oui, oui. Ah oui, bien sûr. Ça, je pense que ça, c'est l'endroit jamais pêché. C'est peut-être un endroit sur lequel on est passé 100 fois. Donc, si vous voulez, ça, c'est pas du tout un problème. La période récente montre que notamment les silures continuent à grandir. Donc effectivement, je pense qu'un jour le 3 mètres sera atteint. C'est un poisson qui est là depuis une vingtaine d'années et on n'en connaît pas vraiment ses limites. Et alors voilà le cas d'un gros poisson. Beaucoup de gens sont en quête de ce gros poisson, oui, un peu qui devient un peu mythique, effectivement. Oui.
Ah, le silure qui sera sans doute l'une des figures centrales d'une exposition à laquelle vous collaborez, contribuez, en préparation pour juin 2017, pêche et art contemporain, c'est ça? Ce sera au FRAC Aquitaine.
Exactement. Oui. Alors bon, je ne connais pas le contenu exact de cette exposition, mais je pense que l'idée est fort intéressante d'amener sur l'art contemporain cette idée de la pêche. Et je pense qu'il y aura de bonnes surprises et de bonnes choses,
voilà,
à voir.
En attendant, je rappelle le titre du superbe livre, j'insiste, écrit par Éric Audinet et illustré de vos photos brutes, Pêcheurs. Au singulier ou au pluriel? Non, au pluriel, j'ai dit tout à l'heure. Au pluriel, c'est aux éditions Confluence qui a publié deux autres ouvrages issus de votre fructueuse et évidente collaboration, Chasseur-cueilleur et CEP. Voilà, toutes les références sur la page de Sur la route sur le site de France Culture. Nos photos et vidéos sont sur notre compte Twitter et Instagram. C'est à mon nom, Julie Gacon. Mais enfin, on peut quand même dire que surtout, on a mis vos photos en ligne sur notre site. Oui, voilà, on a
fait une sélection. Pêcheur, c'est au singulier, en fait. Hein.
Mais voilà, en fait, je ne sais plus. C'est CEP qui est au pluriel. Voilà.
Ouais, je suis pas sûr.
Si, c'était possible. Ah bon, là, je vous confirme.
Donc,
vos photos sur notre site, donc sur la page de Sur la route. Notre petite entreprise poursuit sa route. Yvon Croisier au volant, copilote Sophie Bobert. Merci à France Bleu Gironde pour son accueil. À la technique, c'était Jean-François Cousson. Un mot pour vous dire que vous pouvez télécharger sur notre site les épisodes précédents de cette 6e saison de Sur la route. Notre balade avec Damien, conducteur de TER entre Valence et Briançon. Notre passage dans un village du Nord qui s'interroge sur l'avenir de son église en bien mauvais état. Ou encore notre épisode en Corse sur la question de l'identité. La semaine prochaine, nous serons du côté de Saint-Étienne, notamment à la Ricamari. Nous parlerons de la prévention spécialisée dans les quartiers auprès des jeunes déscolarisés ou en quête de repères. Bientôt 19h sur France Culture. L'heure de retrouver Marie-Hélène Freissé pour Tout un monde.